Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée mondiale contre la faim, Priorité Santé vous donne aujourd'hui rendez-vous à l'Institut du Monde Arabe. Le Centre culturel parisien accueille toute la journée une série de tables rondes et de débats consacrés au rôle des conflits dans les crises alimentaires. Priorité Santé, vous le savez, n'est pas une émission de géopolitique. Mais lorsque les militaires et les rebelles emploient le blocus et la politique de la terre brûlée comme arme de guerre, lorsque des hôpitaux sont bombardés, lorsqu'il ne reste plus que l'assistance humanitaire pour sauver de la famine, déplacés et peuples des cités en ruine. Bref, quand affamer les populations est sciemment employé par les forces armées, comme l'actualité nous le rappelle encore aujourd'hui à Hodeïda au Yémen, eh bien, il nous semblait pertinent de venir ici à la rencontre d'acteurs de terrain confrontés aux conséquences concrètes et implacables de la dénutrition, des carences alimentaires sur les populations vulnérables et en premier lieu les enfants. Rappelez les chiffres aussi, près de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et parmi elles, 60% vivent dans des pays en conflit. En Afrique subsaharienne, une personne sur quatre est sous-alimentée. 141 millions de personnes subsistaient grâce à l'aide humanitaire fin 2017, soit 13 millions de plus qu'en début d'année. Une aggravation qui s'explique par l'augmentation des crises prolongées, comme par le changement climatique, des situations de tension alimentaire chronique qui persistent dans certaines régions du globe, avec dans la zone du Sahel les prochains mois, la période de soudure qui s'annonce particulièrement critique. Journée mondiale de lutte contre la faim, cette conférence à l'Institut du Monde Arabe organisée par l'ONG Action contre la faim, dont vous êtes le vice-président, Pierre Micheletti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de formation, membre du Conseil national de la santé mentale, également professeur à l'Institut politique de Grenoble. J'évoquais tout à l'heure la tension dans la zone sahélienne à l'approche de la période de soudure. On aura très certainement l'occasion d'en parler avec vous. Dabagaï Dabagaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice pays d'action contre la faim au Tchad. Et avec nous également pour parler précisément de la situation en RCA, Benjamin Viennot, bonjour.
Bonjour.
Directeur pays d'action contre la faim donc en Centrafrique.
Priorité santé sur RFI.
Pierre Micheletti, avant d'évoquer ces zones du globe où sévit la famine ou la dénutrition, on va, si vous le voulez bien, rappeler ce que signifie sur le plan de la santé publique la faim. On ne peut pas parler de malnutrition puisque ce terme recouvre aussi des excès comme des dysfonctionnements alimentaires. On parle bien de sous-alimentation avec au niveau planétaire, Pierre Micheletti, votre organisation le dit bien, la résurgence alarmante de la faim dans le monde, on peut le dire, c'est pire aujourd'hui qu'avant.
Alors vous avez dit le chiffre clé, 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Je voudrais préciser d'emblée que donc ça concerne en 2017 environ 38 pays et que sur ces 38 pays, 28 sont des pays africains, ce qui explique aussi que les deux invités d'aujourd'hui représentent ce continent. Nous, les deux directeurs pays d'action contre la faim représentent ce continent. Alors il y a des différentes gradations dans la sous-nutrition, j'y reviendrai tout à l'heure. On estime que la situation va plutôt sur le mieux du point de vue de la sous-nutrition mondiale chronique, tirée vers le haut par l'émergence de pays comme la Chine et comme l'Inde, mais que par contre la sous-nutrition aiguë et la sous-nutrition aiguë sévère, celle qui nous intéresse le plus en termes de risques encourus par les populations et les enfants en particulier, elle stagne, voire progresse.
Et c'est ce qui explique notamment que vous ayez choisi aujourd'hui cette conférence centrée sur les conflits, car c'est une raison majeure de crise aiguë.
Oui, on peut dire que la relation entre la faim et les conflits, elle est de trois ordres possibles si on devait poser une équation un peu théorique. La faim ou la famine peut être la conséquence d'un conflit. Elle peut être utilisée volontairement comme arme de guerre. Et le parti pris qu'on a eu aujourd'hui pour cette journée organisée à l'Institut du Monde Arabe, c'est que, de façon peut-être moins évidente spontanément, les tensions alimentaires peuvent elles-mêmes générer de la violence. Et un certain nombre de pays, comme le Soudan du Sud, illustrent ces situations où de conflits alimentés par, en particulier, les conflits entre pasteurs et agriculteurs sédentaires.
Aggravation de la situation sur cette dernière décennie, Pierre Micheletti, la planète avait pourtant connu une amélioration de sécurité alimentaire au niveau global. Comment on explique cela ?
Alors, on estime qu'il y a aujourd'hui, il y aurait aujourd'hui de quoi nourrir, en l'état actuel de la production mondiale, 12 milliards d'individus. Donc ce n'est pas un problème
de
ressources alimentaires, c'est un problème de distribution de ces ressources alimentaires, c'est un problème d'inégale répartition sur la Terre, mais aussi de pertes d'un certain nombre de productions agricoles ou de poissons pêchés en haute mer qu'on rejette parce que de trop petite taille. Par exemple, la Somalie pourrait, ou les côtes tchadiennes, mauritaniennes et sénégalaises pourraient illustrer cette notion de gaspillage des ressources halieutiques. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on détourne un certain nombre de productions agricoles pour d'autres usages que l'alimentation, type les agrocarburants, par exemple.
Ce qu'on voit notamment avec l'huile de palme, c'est illustré récemment dans l'actualité. Alors, nous, dans Priorité Santé, on s'intéresse bien sûr aux conséquences pour la santé humaine. Cette dénutrition, Pierre Micheletti, qui a un rôle dans la moitié des décès d'enfants d'âgés de moins de 5 ans. Ces chiffres sont implacables. Justement, cette extrême vulnérabilité des plus jeunes dans l'immédiat, quand on est dénutri en cas de crise aiguë, et puis pour le plus long terme, pour l'avenir de la santé des enfants également.
Alors, sans être trop long, il y a trois grands tableaux de sous-nutrition. Il y a la sous-nutrition chronique, où finalement, si on s'intéresse aux enfants, puisque c'est le sens de votre question, ça va se traduire par des carences plutôt qualitatives, des manques de vitamines, de manques de certains nutriments, qui vont avoir pour conséquence pour l'enfant une faible taille, un retard de développement, sans mettre directement sa vie en danger. Et puis, les deux autres grades, qui sont la sous-nutrition aiguë et la sous-nutrition aiguë sévère, qui elles vont avoir des conséquences dramatiques et entraîner un sur-risque de mortalité. Un enfant qui souffre ou les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère ont 10 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 5 ans que des enfants qui sont bien nutris. Par quel mécanisme ? Essentiellement par le fait que dans les carences et la faible quantité de nourriture qu'ils vont recevoir, ils vont recevoir moins de céréales et de glucides dont ils ont besoin d'un point de vue énergétique, mais surtout ils vont avoir des carences en protéines. Or, l'enfant, pour sa croissance, a besoin de protéines, mais il en a aussi besoin parce que ce sont ces protéines qui vont jouer un rôle très important dans la fabrication des globules blancs. Et ces globules blancs qui sont les soldats de l'organisme, eh bien, un enfant qui est dénutri a moins de globules blancs. Et comme il est par ailleurs dans un environnement qui l'expose beaucoup à des maladies type paludisme ou à des maladies dites hydriques,
des
germes qu'on peut trouver dans l'eau de mauvaise qualité, eh bien, vous mettez en vis-à-vis l'équation manque de globules blancs, manque de défense, surexposition à des risques dans l'environnement de ce qu'on appelle les maladies infectieuses, les virus, les bactéries et les parasites. Et vous avez une équation qui conduit à un taux de mortalité des moins de 5 ans qui est dramatique. Pour information, c'est dans son rapport annuel, l'UNICEF classe les pays du monde précisément par le taux de mortalité, ce qu'on appelle le TMM5, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est comme ça que l'UNICEF rend compte de la photographie mondiale sur les questions de la santé des enfants.
On y avait d'ailleurs consacré une émission lors de la publication de leur dernier rapport. Dabagaï, cette vulnérabilité des enfants, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que vous font remonter vos équipes de terrain au Tchad ?
Alors, au Tchad, on a une réalité tout à fait sahélienne. Action contre la faim travaille dans les régions du Kanem et du Bahr el Ghazal qui sont à l'ouest du Tchad. Et sur ces zones-là, nous avons effectivement des problématiques à la fois sociales, médicales, notamment de pratiques de soins inappropriées, de difficultés d'accès à l'eau potable. On a aussi des pratiques socioculturelles qui contribuent à la malnutrition, et on a aussi les autres pathologies de l'enfant qui vont dans ce sens-là. Donc on a un grand volume d'admissions sur cette réalité sahélienne avec des taux de malnutrition aiguë sévère très élevés de l'ordre de 4%. le seuil d'urgence étant de 2%.
Dabagaï, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus concret. Quand vous dites des pratiques inappropriées, ce sont par exemple des gestes que l'on fait sur des enfants qui mettent leur santé en péril et qui plutôt, pour des croyances ancestrales, on pense que l'enfant va mieux se nourrir, et bien c'est l'effet inverse avec une véritable dangerosité. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ça avec un exemple de terrain pour que nos auditeurs comprennent bien, et puis éventuellement que si des personnes dans leur entourage font ce genre de choses, qu'elles puissent s'informer et dire ce ne sont pas des bonnes pratiques?
Alors, concrètement, il s'agit des pratiques comme le fait de couper la luette de l'enfant quand il est malade ou de faire des scarifications qui font en sorte que sur un enfant qui est déjà affaibli, va être encore plus affaibli et être dans un état de malnutrition, en plus avec des complications.
Donc, Pierre Micheletti, je m'adresse au médecin, parce que faire une scarification, c'est rendre accessible la peau. La peau, c'est une protection naturelle et c'est limiter cette protection pour un petit enfant. Donc, les germes, les infections peuvent attaquer beaucoup plus facilement son organisme, d'autant plus s'il est en situation de dénutrition.
Absolument. Dès lors que vous faites tomber une barrière de protection naturelle, c'est la porte ouverte à des effractions de toutes sortes. Y compris d'ailleurs au niveau des membres inférieurs, pour rester sur le thème de la sous-nutrition, par des parasites qui vont utiliser une petite brèche dans la peau des pieds ou des jambes pour rentrer dans l'organisme. Or, vous comprenez bien que des personnes reçoivent déjà peu d'aliments et qu'une partie de ces aliments sont spoliés parce qu'ils vont avoir un ténia ou des ascaris, détournent le peu d'aliments des services qu'ils peuvent rendre à l'organisme, c'est encore une modalité qui va creuser les difficultés de santé de ces enfants ou de ces adultes même.
Il y a également la question de la prise en charge, savoir quand est-ce qu'on prend les enfants dans ce schéma de dénutrition. Dabagaï, vous informez justement les parents, les mamans, les mères pour leur dire il faut emmener les enfants au centre de soins dès qu'il y a tel ou tel signe?
Alors, dans nos programmes, nous avons un volet important de relations avec la communauté que nous mettons en place en ayant à la fois dans la communauté des relais communautaires, des mamans qui font des dépistages à la fois du périmètre brachial et des œdèmes, et nous avons aussi des agents qui vont régulièrement dans la communauté s'assurer que ces relais communautaires sont toujours en phase avec les messages et nous-mêmes être présents si jamais il y avait besoin de renforcer ces messages-là. Donc régulièrement, nous avons avec nos agents des activités sur le terrain avec la communauté sur les signes de la malnutrition, sur comment alimenter un enfant.
Alors un travail très pointu, justement, on prend la croissance de ces enfants, on a des mesures concrètes pour savoir comment va justement le groupe de population sur lequel on travaille. Benjamin Viennot pour la Centrafrique, est-ce que vous constatez vous aussi cette vulnérabilité particulière des plus jeunes?
Absolument, absolument. Je crois que tout ce que voient nos équipes et ce que moi-même je vois sur le terrain, c'est des enfants qui sont en grande difficulté, que ce soit dans les villes, dans les villages. Il faut savoir que en République centrafricaine, un enfant sur quatre est déplacé. Il se retrouve pas dans son environnement familial normal, avec un accès aux services de base qui est très réduit, que ce soit à l'eau, au service de santé, bien évidemment, mais aussi, pour ce qui est des conditions de vie, un accès aux champs qui est bien limité. Et du coup, cet enfant ne reçoit pas toute l'attention, n'a pas toutes les ressources à sa disposition qu'il devrait avoir, et il s'ensuit une dégradation de son état de santé. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain.
On va revenir à cette question des déplacés parce que c'est une question essentielle, tant du point de vue de l'accès à l'alimentation que des pratiques aussi de la poursuite de l'activité des populations. Mais on va d'abord répondre à deux questions que nos auditeurs nous ont posées sur la page Facebook de l'émission. Le premier de ces auditeurs, eh bien, il est au Tchad, il s'appelle Osana et il pose cette question qui s'adresse à chacun d'entre vous si vous voulez y répondre. Quelles sont les maladies liées à la malnutrition? Première chose, je crois que Benjamin Viennot, vous aviez quelque chose à dire sur la forme de cette question, maladie liée à la malnutrition?
Bien sûr, parce que nous, ce qu'on défend, c'est que la malnutrition, c'est une maladie. C'est une maladie qui doit être prise en charge comme n'importe quelle maladie. Quand on se rend dans un centre de santé, et c'est le cas dans la politique de santé centrafricaine, dans les protocoles, ce qui est dit, c'est que la malnutrition doit être prise en charge comme n'importe quelle autre pathologie.
Alors, ce qu'on pourrait poser comme question, c'est quelles sont les carences, Pierre Micheletti, les carences particulières. On l'a abordé tout à l'heure rapidement, mais on peut y revenir, notamment en termes de fer, en termes de vitamines, tout ce qui est essentiel pour justement la croissance, mais aussi, par exemple, pour une femme enceinte, très important lorsqu'elle porte un enfant, pour des personnes plus fragiles, des personnes âgées. Quelles sont ces carences?
Alors, il y a les deux tableaux hein, de la malnutrition chronique, où là, comme je l'évoquais précédemment, ce sont des traitements substitutifs pour apporter des vitamines ou un certain nombre de produits nécessaires à la croissance, mais sur un mode non urgent. Et puis il y a les grands tableaux de la sous-nutrition, de la malnutrition aiguë. Les personnes sur le continent africain ou ailleurs qui sont confrontées connaissent ces tableaux dites du marasme ou du kwashiorkor. Dans étymologiquement kwashiorkor, l'enfant aux cheveux rouges. Donc le marasme, c'est le tableau de la grande dénutrition globale avec des enfants, pour rester sur cette population, dans un état de maigreur extrême. Et le kwashiorkor, c'est possiblement ses cheveux rouges, mais avec un enfant qui va présenter des œdèmes et un caractère faussement dodu, si vous voulez.
Est-ce que c'est réversible, une atteinte aussi profonde ?
C'est réversible. Ça renvoie à ce tableau du kwashiorkor, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les globules blancs. On note ce tableau de kwashiorkor quand les enfants sont très carencés au niveau protéines. Et à ce moment-là, toute la chimie et la physique du corps s'en trouve atteinte, et il y a des infiltrations d'eau qu'on ne constate pas. Là, dans les tableaux de grande maigreur du marasme en particulier, et c'est une des difficultés dans certaines régions africaines, la prise en charge de ces enfants relève d'une prise en charge hospitalière.
Justement, c'est ma question, est-ce que ces enfants, on peut encore les nourrir par voie orale, par la bouche, Pierre Micheletti ?
Alors, dans les tableaux très dégradés, soit ce sont des nutritions dites parentérales, par voie veineuse, où on apporte protéines, sucres, et ce dont l'enfant a besoin, surtout si, en plus de ça, il a des troubles de la conscience. L'étape intermédiaire, c'est une renutrition par sonde nasogastrique. On introduit directement dans l'estomac du bébé ou de l'enfant une sonde par laquelle on va le nutrir, jusqu'à ce qu'il reprenne un niveau de santé suffisamment acceptable pour timidement réintroduire de l'alimentation par les voies physiologiques.
Alors, une autre question qui est liée un petit peu à ce qu'on vient de dire, c'est Raphaël qui nous a envoyé cette question de Mbujimayi en République démocratique du Congo. La malnutrition sévère est-elle irréversible pour l'enfant ? Peut-être aussi dans des régions comme la République centrafricaine où ces situations s'installent véritablement dans la durée, des parents peuvent s'inquiéter, ils disent aujourd'hui j'ai pas à manger, mais si demain ça va mieux, est-ce que ça va aller mieux pour ma famille ? C'est une question que je vous pose, Benjamin Viennot, RCA.
Oui, c'est une question, ça dépend du cas en fait, évidemment. Je dirais que si un enfant est atteint de malnutrition aiguë sévère pendant trop longtemps, les dégâts peuvent devenir irréversibles. On pense notamment aux problèmes de développement cérébral, etc. Ça peut avoir des impacts très forts. Mais lorsque c'est pris à temps, on peut le soigner. Et derrière, l'enfant peut repartir sur une enfance qui est saine.
Pierre Micheletti, vous vouliez ajouter quelque chose?
Pour réagir sur cette surmortalité que j'évoquais tout à l'heure, x10 par rapport à un enfant en bonne santé, il y a eu des éléments de réponse de Dagabaï et de Benjamin. Il y a deux conditions sur lesquelles ACF cherche à travailler. La première, c'est le repérage rapide de ces enfants et donc la sensibilisation des mamans pour qu'elles n'attendent pas un tableau de dénutrition extrême avant de faire le geste de se rendre dans un centre médicalisé. Et donc, d'où le travail qu'évoquait Dagabaï sur le fait que ces mamans, elles ont besoin d'être informées de ce qui se passe, d'être capables de repérer précocement les signes et qu'on leur donne envie et les moyens d'aller consulter.
Et s'il fallait dire quelques-uns de ces signes comme ça aux auditeurs, c'est quoi? C'est quand l'enfant ne bouge plus trop, une sorte de...
À ce stade, c'est grave.
C'est déjà, grave. Sinon, c'est quoi? C'est aussi, je sais pas, pour donner des signes, une maman, elle est chez elle s'inquiète, elle dit, est-ce qu'il y a vraiment moyen tout de suite d'emmener l'enfant au dispensaire, au centre de soins?
C'est un enfant qui ne grandit plus et qui ne grandit plus dans la maigreur. Et donc, on sait très bien que l'enfant, entre 0 et 4 ans, il va pousser comme la mauvaise herbe, en théorie.
Il est dodu.
Ça va pas se produire. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut que les mamans soient sensibilisées, comme ça a été dit. Et Benjamin a rajouté quelque chose. C'est que, encore faut-il que dans un périmètre géographique raisonnable,
il y ait
des équipes hospitalières avec les compétences et les moyens qui relèvent quand même d'une forme de pédiatrie un peu spécialisée pour prendre en charge ces enfants. Or, sur la population mondiale concernée par la sous-nutrition aiguë sévère, seuls 15% de ces enfants ont potentiellement accès à des structures hospitalières spécialisées. Donc, vous voyez, c'est la double peine, en quelque sorte.
Et encore faut-il que les États en aient les moyens, hein. En République centrafricaine, crise multifactorielle, rivalité intercommunautaire, effondrement économique, faille des structures sanitaires. Justement, la population compte énormément sur les humanitaires. C'est la dernière ressource, parce qu'il y a quand même des zones du territoire qui doivent être privées de quasiment tout accès aux soins.
Malheureusement, effectivement, on est un petit peu le dernier rempart, les ONG. On a évidemment une société civile avec des ONG évidemment aussi locales qui essayent de faire le travail, mais les ONG internationales, comme ACF, mais aussi comme d'autres, j'aimerais citer le CICR en organisation internationale et MSF, qui font un travail remarquable pour apporter la santé là où sinon il n'y en aurait pas. Et on ne parle pas simplement de soins de santé primaires, on ne parle pas de quelques tablettes qui pourraient être distribuées ici et là. On parle vraiment parfois de blocs chirurgicaux qui sont dans des hôpitaux qui sont en pleine brousse. Je me rappelle qu'en 2013, en RCA, l'hôpital de référence n'était pas à Bangui, mais à Paoua, qui se trouve en frontière tchadienne, parce que MSF soutenait un hôpital là-bas. ACF, on travaillait main dans la main avec eux sur de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, là où, si nous n'y étions pas, les enfants n'auraient aucun recours d'être soignés. Et je crois que pour nous, c'est vraiment une des motivations qui nous pousse, nous et nos équipes, à travailler là-dedans et à travailler sur cette prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, c'est que on est le dernier espoir de ces enfants-là, parce que sinon, il n'y a aucun service.
Alors justement, sur cette faillite ou fragilité des structures sanitaires nationales, des structures d'État, est-ce que vous voulez réagir sur ce point, Pierre Micheletti? Est-ce que justement, des organisations comme Action contre la faim travaillent main dans la main, ont une fonction de moteur par rapport à... Bien sûr, il faut pallier à l'urgence, mais aussi engager des actions sur le plus long terme.
Alors, je crois que Dagabaï pourrait bien mieux que moi, concrètement, à partir de l'expérience tchadienne évoquée, parce que cette mission du Tchad que j'ai visitée il y a 2 ou 3 ans est emblématique de toute la chaîne dans laquelle Action contre la faim est impliquée et qui va bien au-delà de la simple sécurisation au moment des ruptures ou autres, mais je pense qu'elle est plus compétente que moi
Dagabaï, alors justement, l'expérience tchadienne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce point de vue?
Alors, au niveau du Tchad, en termes d'activité de long terme, nous travaillons avec les autorités sanitaires, aussi bien au niveau local, au niveau des centres de santé que des hôpitaux, sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, mais également nous travaillons à une plus grande échelle sur le renforcement du système de santé en soi. Donc, au-delà des activités simples de supervision, et de prise en charge des maladies de l'enfant, nous travaillons aussi à renforcer le système en lui-même sur les 6 piliers du système de santé. Donc, que ce soit à la fois les éléments liés à la gouvernance, à l'approvisionnement, à la gestion de l'information sanitaire. Donc, ce travail-là a été lancé il y a à peu près 3 ans et nous espérons à travers cela que petit à petit les autorités sanitaires et l'État va pouvoir reprendre ces activités,
le contrôle.
Voilà.
Dagabaï, Pierre Micheletti, Benjamin Viennot, vous restez avec nous.
Santé sur RFI.
On poursuit cet échange avec vous, madame, messieurs, toujours en direct de l'Institut du Monde Arabe où Priorité Santé s'est déplacée à l'occasion de la Journée mondiale contre la faim. Journée de conférence, table ronde, débat à l'initiative de votre organisation Action contre la faim. Vous en êtes le vice-président, Pierre Micheletti, Dabagaï, directrice pays au Tchad, Benjamin Vinon en Centrafrique. On a évoqué l'impact de la malnutrition sur la croissance des enfants, les carences qui hypothèquent leur avenir, affaiblissement général de l'organisme. Et puis, il y a aussi toutes les autres maladies, hein. On a parlé de la malnutrition, grande maladie, les autres maladies, notamment on pense forcément au paludisme ou aux pneumonies, toutes ces infections respiratoires qui viennent en plus se surajouter à la malnutrition, avec donc cette double urgence qui est d'ailleurs sur le long terme, de façon chronique dans ces régions. On peut citer en particulier le cas de la République centrafricaine pour cette double attaque sanitaire. Benjamin Viennot, même si on s'occupe de la malnutrition à Action contre la faim, on est aussi là pour faire face aux autres grandes épidémies, aux grandes infections qui touchent toute l'Afrique subsaharienne.
Absolument. C'est difficilement concevable de mettre en place des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sans regarder les autres causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. On pense évidemment au paludisme, mais aussi, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, à la diarrhée et aux maladies hydriques. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi dans ce sens sur les causes de la malnutrition. Il faut savoir que la diarrhée et la malnutrition, il y a ce qu'on appelle le cercle vicieux de la diarrhée malnutrition, c'est-à-dire que un enfant qui a la diarrhée a un problème, a beaucoup plus de mal son organisme à prendre en charge les nutriments de son alimentation, et quand il est lui-même malnutri, il a la diarrhée. On voit bien qu'il y a un cercle vicieux. De la même manière, le palu peut conduire à des anémies qui peuvent conduire à la malnutrition. Donc on essaye de voir le problème dans son ensemble et de faire une analyse des besoins dans son ensemble et non pas de travailler en silo sur certaines maladies simplement.
Alors il y a une problématique centrale, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, on y revient maintenant, c'est celle des populations déplacées. Parce qu'on peut avoir plusieurs causes pour ces déplacements massifs de population. On peut simplement aller chercher à manger, et puis aussi on peut éviter un conflit, éviter une zone de guerre, fuir des violences. Problématique centrale, vous le disiez, Benjamin Viennot, en République centrafricaine, une énorme partie de la population aujourd'hui n'habite plus dans son village.
Un quart,
c'est énorme, c'est...
Alors, ils se sont déplacés soit en République centrafricaine, soit dans les pays limitrophes, donc au Tchad, mais aussi au Cameroun, en RDC, dans une moindre mesure au Soudan. Effectivement, c'est un impact énorme. On peut bien imaginer que ces déplacements, en plus, ont lieu à cause de conflits, de violences. C'est des populations qui, parfois, arrivent à fuir préventivement, mais qui souvent sont pris de court et partent vraiment avec un minimum de biens avec eux, un minimum de ressources. Ils doivent tout laisser derrière eux, leur maison, leur champ, leur bétail. Et derrière, ils passent en plus, ils fuient généralement non pas par la route, mais par la forêt. Et ils passent parfois de nombreuses semaines dans la forêt. Et c'est là qu'on se rend compte que la mortalité infantile est très haute. On s'en rend compte, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à documenter. C'est des zones qui sont très peu accessibles. Et c'est tout simplement le récit de ces survivants qui nous informe de ces situations-là.
Question des déplacés qui bouleverse les schémas de production agricole. Pierre Micheletti, ça accentue la pression agraire, ça menace l'équilibre alimentaire. Et là, on n'est plus justement dans ces périodes aiguës. On s'installe du coup dans le chronique, on désorganise toute la société rurale, toute cette société agraire, Pierre Micheletti.
Oui, absolument. Sur beaucoup de pays du continent africain, pour parler de cette région, on a une agriculture familiale. Et donc, la fuite ou le mouvement, quand une population se met en mouvement, ça a différents inconvénients, bien sûr. D'une part, le mouvement fragilise toujours par la perte des repères, la perte de la protection par rapport aux intempéries, etc., fragilise la population. Ce dont on a moins conscience, c'est qu'en général, elle se regroupe, alors que quelquefois son habitat est plus traditionnellement plus dispersé. Qui dit regroupement dit augmentation du risque épidémique par la pollution de l'eau, par les matières fécales, etc., survenue d'une épidémie. Dans un camp de réfugiés, la première cause de mortalité qu'on craint, c'est la rougeole. C'est une épidémie de rougeole ou de méningite. Donc le mouvement lui-même crée de la promiscuité et donc expose les populations, les met en tension avec les populations environnantes, parce que quand une population environnante voit arriver 500, 5000, 10 000 déplacés, ces terres sont occupées, le bois est coupé pour faire la cuisine, etc. Donc ça génère, voilà par exemple une cause de violence. Et puis ce sont en général ces gens qui bougent des petits agriculteurs, et ce qui caractérise leur structure économique, c'est qu'ils étaient autoproducteurs de leur consommation alimentaire. Et donc c'est tout leur alimentation avant que n'arrive l'aide internationale ou l'aide nationale qui est mise en tension.
Benjamin Vienneau voulait réagir.
Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Mais également rajouter une dimension psychologique. Et l'impact de ce déplacement et d'être victime et témoin de violence sur le traumatisme psychologique. Action contre la faim, c'est quelque chose sur lequel nous sommes extrêmement sensibles. On met en place des programmes de prise en charge du traumatisme psychologique avec nos équipes nationales renforcées par un psychologue international. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut surtout pas sous-estimer. Les études montrent que l'impact de ce traumatisme psychologique est vraiment important.
Avec notamment, y compris Dabagaï, dans la structure familiale, l'impact psychologique, non seulement pour les personnes déplacées, mais simplement pour des familles qui perdent des enfants ou des mères qui se retrouvent incapables d'allaiter leur bébé, qui voient leurs enfants dépérir sous leurs yeux. Il y a un véritable traumatisme qui s'installe au niveau de la communauté. Comment justement vous intervenez, que font vos équipes de terrain pour aider sur ce plan très particulier ?
Alors, nos équipes sur le terrain se mobilisent également sur ce volet-là, notamment au niveau hospitalier où nous avons des mamans qui viennent avec les enfants qui ont de la malnutrition aiguë sévère avec des complications. Et donc, sur ce type de patients et accompagnants, donc les mamans, nous les accompagnons dans la prise en charge psychologique liée à cet état de fait, d'avoir un enfant dans cet état-là. Mais nous intervenons aussi au niveau de la prévention de la malnutrition aiguë sévère avec les femmes enceintes et allaitantes lorsqu'elles font des consultations prénatales ou postnatales, où nous les accompagnons aussi dans cette phase difficile. Parce que, en plus, dans les communautés, comme nous l'avons dit beaucoup plus tôt, il y a toute cette attente de la communauté sur ce qui est possible de faire, pas possible de faire en termes de tabous. Donc, pour la femme enceinte aussi, il y a un ensemble de restrictions communautaires. Il y a aussi un état d'être. Et pour la femme qui a accouché, il y a aussi les dépressions postpartum. Donc, on prend en charge aussi dans ce schéma-là du cercle vicieux aussi de la malnutrition entre l'enfant et la maman.
Mais vous disiez tout à l'heure des consultations prénatales, Dabagaï. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ? Est-ce qu'il faut communiquer pour attirer les mamans vers les centres de soins, aller directement dans la communauté, dire, essayer peut-être même de faire du repérage, s'il y a une maman enceinte, aller voir et puis lui dire, voilà, c'est le moment de venir nous voir, c'est le moment de recevoir cette information ?
Tout à fait. Donc, dans le volet de notre programme sur notamment en termes de prévention, donc on a toutes ces activités où on essaye d'augmenter en tout cas la fréquentation des centres de santé sur ces consultations prénatales et postnatales et d'augmenter aussi l'accouchement en milieu institutionnel. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons avec des sages-femmes du ministère de la Santé qui travaillent avec nous, qui sont basées dans les centres de santé ou du staff sages-femmes que nous soutenons dans les centres de santé. Mais en même temps, il y a une vraie réalité de problématique des ressources humaines en santé au Tchad, où nous nous retrouvons dans des zones où, en réalité, s'il n'y avait pas cet appui supplémentaire, nous n'aurions quasiment pas de sages-femmes. Donc, c'est une réalité. Et en plus, il y a aussi une vraie difficulté en termes de croyances et d'habitudes où, traditionnellement, les femmes, elles accouchent à la maison. Donc, il y a aussi cette barrière-là d'aller dans le centre de santé qui est loin de la maison, rester un moment là-bas. Il y a tout ça sur lesquels nous travaillons. Voilà.
Tout à l'heure, on a parlé avec vous, Benjamin Vienneau, justement, des traumatismes liés au déplacement. Pour le cas de la République centrafricaine, il y a d'autres traumatismes qui sont beaucoup plus concret, c'est les gens qui ont subi directement les violences. On a quand même un nombre très important de personnes qui ont été soit témoins, soit victimes, soit touchées dans l'entourage par ces violences. Est-ce qu'il y a une prise en charge, là on pourrait dire quasiment liée aux situations de guerre, avec des personnes en situation de choc post-traumatique? Comment est-ce qu'on fait pour agir avec finalement une telle diversité de cas, avec une telle diversité de défis sur le plan sanitaire et sur aussi le plan de la santé mentale?
Déjà, je crois qu'il faut être assez humble et dire qu'en aucun cas on ne couvre tous ces cas et on n'arrive pas du tout à adresser tous ces besoins. Pour autant, on essaie. On essaie en mettant en place des protocoles de prise en charge du traumatisme psychologique, que ce soit pour les personnes victimes donc de stress post-traumatique, soit de dépression. C'est des protocoles de groupe qui sont donc groupes de parole qui sont organisés par nos équipes nationales, donc supportés par un psychologue international. C'est des séances pour les adultes qui durent 6 semaines, 5 semaines pour les enfants et qui montrent des très bons résultats. Qu'on mesure à travers différentes échelles du traumatisme et différentes échelles du bien-être, et on se rend compte qu'il y a une véritable amélioration suite à ces protocoles-là.
Alors, Action contre la faim, bien sûr, s'intéresse aujourd'hui aux conflits qui causent cette situation de dénutrition, de sous-nutrition, des stratégies de résolution dans la durée, même si vous n'avez pas une fonction, Pierre Micheletti, de poids diplomatique, d'aller aux tables des négociations. Mais tout de même, c'est quoi, vous, au-delà de l'apport dans cette urgence? On a l'image des centres, justement, où sont distribuées ces solutions pour nourrir les enfants, etc. Mais sur l'investissement dans la durée, sur l'agriculture, et puis cet investissement à dimension locale, à dimension communautaire. Vous agissez comment, au-delà justement de cette dimension sanitaire?
Alors là encore, je crois que la mission de Tchad sera une bonne illustration. Je voudrais quand même dire dans quel esprit Action contre la faim développe ces questions. Précisément, comme les causes de la faim sont multiples, et entre autres reliées soit à des tensions entre agriculteurs, soit aux effets du changement climatique, si on ne veut pas être que dans des logiques de réaction à des crises répétitives, il faut essayer de travailler en amont. Et travailler en amont, ça veut dire se mettre en situation de travailler avec les agriculteurs pour les aider à faire des choix d'évolution de ce qu'ils vont planter, de tenir compte du réchauffement climatique, de tenir compte de la progression de la désertification. Chemin faisant, d'essayer aussi de pacifier des conflits qu'on rencontre souvent sur le terrain, encore une fois, entre les pasteurs et leurs troupeaux et les agriculteurs qui font du maraîchage. Donc c'est une façon de prévenir des situations de crise extrême, crise alimentaire et crise politique avec de la violence.
Parce que, excusez-moi Pierre Micheletti, votre expertise, c'est aussi par exemple d'expliquer à des agriculteurs, si vous plantez telle céréale, telle légumineuse, vous nourrirez mieux votre famille, il y aura moins de dénutrition.
Absolument.
Par exemple, si on prenait un exemple sur une région, quel type de céréales ou de plantations vous préconisez, ou peut-être aussi des plantes qui sont moins
consommatrices d'eau, par exemple.
Exactement.
Oui, ben ça c'est tout du cas par cas. Hein. Je pense que
selon les régions,
selon les pays. Pour faire le lien avec une option importante d'Action contre la faim, c'est que pour faire évoluer ces pratiques des agriculteurs, il nous faut quand même des équipes. Avec des compétences de techniciens agricoles ou des compétences d'ingénieurs agronomes, de personnes dont on fait en sorte qu'elles soient souvent des personnes elles-mêmes originaires du pays ou originaires d'Afrique, parce que ce sont des dimensions éminemment culturelles. Faire évoluer des pratiques de paysans sur ce qu'elles plantent, comment elles le plantent, etc., il faut quand même avoir les décodeurs culturels pour arriver à les convaincre et que ça n'apparaisse pas comme un plaquage de techniciens venus d'Europe, donneurs de leçons, déconnectés des lectures que ces populations peuvent avoir de leur rapport à la terre et de leur rapport à la production agricole.
Et c'est précisément ce que vous illustrez depuis le début de cette émission. l'expression d'abagaï, vous dites on avance à petits pas en respectant le local et en montrant la direction. C'est vrai aussi sur les modes alimentaires. Est-ce que vous incitez, par exemple, dans les familles, à certains petits changements, hein, sans vouloir apporter des plats qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait par la cuisinière, etc. Mais est-ce que vous apportez des changements concrets comme ça pour dire là, ce serait plus adapté pour les enfants, ce serait plus adapté pour la famille?
Alors, sur le volet communautaire des activités directement liées à la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, on travaille au sein des communautés à faire des démonstrations culinaires avec les ressources disponibles au sein de la communauté, de dire quelles seraient les pratiques appropriées pour l'alimentation du jeune enfant et de la femme enceinte et allaitante. Donc cela fait partie véritablement de nos programmes, mais au-delà de ça, nous avons aussi ce que nous appelons en général sécurité nutritionnelle, qui sera finalement l'ensemble des activités que nous menons qui essayent de tacler les causes sous-jacentes de la malnutrition aiguë sévère. Et dans ces programmes-là, nous avons des programmes de long terme de sécurité alimentaire qui essayent, selon la communauté et selon les ressources disponibles, de trouver les espèces les plus adaptées possibles, aussi bien d'un point de vue climatique et nutritif. Et nous travaillons aussi à sensibiliser à la diversité alimentaire.
Est-ce que vous faites face à des résistances, à des blocages locaux? Est-ce que vous avez mis justement en place des programmes de médiation avec justement les autorités locales, un chef de village par exemple?
Alors, nous travaillons très étroitement avec les chefs de village et au bout de quelques années de présence sur les zones de l'ouest du Tchad, le Kanem et le Bahr el Ghazal, nous n'avons absolument pas de problème de résistance. Mais je dois dire qu'il y a une difficulté dans nos programmes qui est réelle, c'est le changement de comportement. Le changement de comportement sur des pratiques, on va dire, ancestrales, ancrées. Donc il n'y a pas de résistance à entendre les messages, mais on va dire la transformation du message en action prend véritablement beaucoup de temps, mais il y a des victoires au quotidien, voilà.
Pierre Micheletti, vous voulez réagir?
Oui, il y a une dimension éminemment politique dans la question que vous posez, parce que dans l'équation qu'on rencontre dans un certain nombre de pays, certes, il s'agit d'accompagner les agriculteurs vers des changements culturels, mais il s'agit aussi, et Action contre la faim ne s'en prive pas, de dénoncer les pratiques d'un certain nombre de grandes compagnies internationales qui vont encourager certaines pratiques agricoles, comme substituer l'huile de palme au maraîchage, ou substituer la production du coton ou la production de haricots verts d'exportation au détriment de cultures vivrières. Et bien évidemment, l'association ne peut pas rester muette devant ces lobbies, soit ces lobbies qui sont responsables soit de spoliation de terres ou d'expropriation, soit avec des grosses machines qui vont influencer les petits agriculteurs et contribuer à rendre les tensions forte sur la production familiale.
Alors, on a parlé en début d'émission, j'aimerais qu'on y revienne maintenant à l'actualité des prochains mois dans la région sahélienne. Il y a cette période de soudure qui s'annonce particulièrement difficile, hein, la jonction entre les deux récoltes. L'ONU s'inquiète justement, parle de 7 millions de personnes concernées, près de la moitié au nord-est du Nigeria. Comment une association comme la vôtre, Pierre Micheletti, se prépare, avec d'ailleurs les autres organisations humanitaires bien sûr, à ce type d'événement? On ne peut pas anticiper une crise, mais en tout cas, peut-être qu'on peut s'y préparer un petit peu.
En tous les cas, l'association est très vigilante et très proche des grandes organisations comme la FAO ou le Programme Alimentaire Mondial. Mais Action contre la faim est aussi très impliquée dans un certain nombre d'outils de surveillance par satellite de la progression de la zone sahélienne. On essaye aux côtés d'autres acteurs d'avoir les moyens d'anticiper sur des périodes de soudure qu'on pressent comme potentiellement à haut risque. Voilà. Et puis l'association et nos chefs, nos directeurs de projet sur le terrain sont aussi confrontés à la réalité quotidienne et eux-mêmes interpellent quelquefois ces grandes organisations onusiennes sur une réalité que ne connaissent pas toujours les organisations de l'ONU.
Alors c'est toute la bande sahélienne, hein, qui est concernée, Burkina, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Tchad. Dabagaï, est-ce que vous voyez, vous, déjà sur le terrain, les premiers signes justement de, on ne parle pas bien sûr de sécheresse, mais en tout cas d'appauvrissement des réserves, que les familles peut-être vous sollicitent davantage que les semaines ou les mois précédents? Est-ce qu'il y a quelque chose de saisonnier ?
Alors, pour le Sahel, effectivement, là, on est dans la période de soudure qui s'annonce, et cette année-ci, elle est plutôt précoce selon l'analyse que nous avons tous. Dans nos programmes, on a vu effectivement une certaine augmentation des admissions. Donc, pour nous, nous y sommes préparés déjà parce que c'est saisonnier, cette période de soudure étant présente chaque année. Et pour cette année-ci, où elle s'annonce particulièrement plus longue et peut-être plus difficile, nous avons déjà étendu nos activités sur un district sanitaire supplémentaire sur lequel nous n'étions pas avant et sur lequel il n'y avait pas d'acteurs.
2018, période de soudure compliquée, là on parle du réchauffement climatique, Pierre Micheletti. On voit, votre organisation, les organisations humanitaires font face à une série en fait de problématiques d'une telle complexité qui dépasse bien sûr seulement le rôle sanitaire, le rôle d'aide d'appoint. C'est véritablement la concentration de toutes les questions du temps. On a parlé bien sûr des conflits, on a parlé de santé, maintenant on parle de réchauffement climatique. On a envie de vous demander comment on fait face à tout ça en même temps.
Oui, je ne voudrais pas terminer sur une image trop pessimiste, mais à l'équation que vous venez de rappeler, se greffe un élément qui, pour ce qui me concerne, est très préoccupant, c'est la question de la progression démographique sur le continent africain. On voit bien qu'on est déjà en train de parler d'un certain nombre d'éléments de tension que vous rappelez, environnementaux, politiques, etc. Le continent africain aujourd'hui, c'est environ 15% de la population mondiale. Les projections assez fiable, semble-t-il, font que ce continent devrait peser 25% de la population mondiale en 2050 et 40% de la population mondiale en 2100. Donc, c'est en cela que je pense qu'il faut être très très attentif à ce continent de tous les risques du point de vue alimentaire. On voit bien que progression ou détérioration environnementale, progression exponentielle de l'augmentation démographique, si les problèmes dont on a parlé pendant votre émission ne sont pas notablement améliorés dans un avenir pas trop lointain, eh bien, on va avoir là un effet de télescopage de ces facteurs qui font que les dirigeants africains ont du souci à se faire pour la sécurité alimentaire sur leur territoire.
Précisément, il nous reste moins d'une minute. Fin zéro, objectif numéro 2 de développement durable à l'horizon 2030. Ça vous inspire quoi, Pierre Micheletti ? Vous avez dit, on ne va pas terminer sur une note trop pessimiste. Est-ce que vous y croyez encore ? 2030.
Bien, on va voir entre autres ce qui va se passer avec les décisions d'engagement des dépenses qui ont été prises à l'issue de la COP21, c'est-à-dire que parmi les financements de 100 milliards de dollars annuels qu'on est censé être capable de collecter d'ici 2020, le sens de mon appel, c'est de dire le continent africain doit bénéficier autour de la prise en charge de l'évolution climatique d'une part non négligeable de ces financements internationaux.
Alors on l'a compris à l'occasion de cette conférence aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe à Paris, réponse à la sécurité alimentaire qui passe par l'urgence, l'aide internationale, également des questions éminemment politiques, réponses politiques, agricoles, sanitaires sur le long terme. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. À vous Dabagaï, directrice pays d'action contre la faim au Tchad. À vous Benjamin Viennot, directeur pays d'action contre la faim en Centrafrique. Et à vous Pierre Micheletti, vice-président d'Action contre la faim, membre du Conseil national de la santé mentale. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, Bertrand Éclair pour les moyens extérieurs. Lundi, dans Priorité Santé, vous allez retrouver à ce micro et jusqu'à mercredi, Sandrine Mercier. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi. Priorité Santé vous retrouvera pour une série d'émissions à Dakar, au Sénégal. Très bonne journée, où que vous soyez dans le monde.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.